Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
L'association Biovallée fêtait ses 10 ans les 17 et 18 septembre dernier à Oust-sur-Scie. Que devrions-nous faire en priorité pour prendre en main notre avenir dans la vallée? C'était la question posée à tous et toutes. Rappelez-vous le premier épisode.
Bonjour, pardon. Je pensais pas que c'était aussi fort.
On est tous venus, chacun de nous est venu avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui au niveau planétaire, les responsabilités qu'on a chacun pour essayer de faire en sorte de s'offrir et d'offrir à nos enfants un avenir qui soit le meilleur possible. Voilà ce qui est sorti finalement des préoccupations de chacun, de ce qui lui semble prioritaire de faire. Donc on a eu des sujets autour du logement, autour de la biodiversité, autour de l'énergie, etc.
Je vais employer le mot citoyenne. Mais des habitants, on peut dire tout simplement. Voilà, c'est ça, pour éviter d'être dans des groupes sans arrêt.
Donc Biovallée est un peu dans son intention de proposer ces espaces d'échange et de rencontre pour que l'émulsion collective puisse avoir lieu et que ça débouche sur des choses, des projets, on espère, qui vont se poursuivre concrètement. Alors aujourd'hui, c'était plutôt une phase d'émergence des sujets où on rêve, on échange, etc.
Des élus, des citoyens, des salariés ou bénévoles de l'association Biovallée. Et si nous continuons à faire la rencontre de tous ces personnages qui ce jour-là se sont croisés et qui peut-être pourraient refaire le monde.
Juste un petit mot pour vous souhaiter bonjour et re-bienvenue dans cet atelier. Voilà, on a passé une très belle journée hier de rencontres, d'échanges, que ce soit ici dans cette salle, sur le marché des initiatives, des producteurs, et puis autour des concerts et de la buvette. Donc on espère que cette journée sera tout aussi chouette et un peu moins frisquette. Le vent est tombé, le soleil vient là, donc tout se présente bien.
Suivez un drôle de papillon un jour d'un peu de vent, épisode 2.
Et aujourd'hui, on continue sur la même question, mais cette fois-ci avec une énergie de convergence.
Samuel Bonvoisin, adhérent bénévole, association Biovallée, chargé de co-animation.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on va s'organiser? Qui aurait envie de faire quoi? Et il y a toujours un peu cette idée aussi de la responsabilité. On est responsable de notre parole, on est aussi responsable de nos engagements et on est finalement responsable de notre avenir, individuellement et collectivement. Et donc c'est une invitation aujourd'hui à tout simplement échanger des contacts, se donner rendez-vous, s'organiser, créer des associations, des collectifs, des événements, etc. pour essayer de pousser ces sujets qui sont si importants pour notre avenir et essayer de faire que notre vallée continue d'être une vallée vraiment dynamique pour soutenir la transition écologique et sociale.
Voilà, j'ai pris le temps ce matin de faire un petit tour, d'aller regarder ce qui avait été affiché. Et vous avez carrément bien travaillé hier, donc ça vous fait une très belle matière pour redémarrer la journée aujourd'hui et essayer d'aller un peu plus loin.
L'idée, c'est pas de créer de la contrainte. L'idée, c'est d'aller là où il y a de l'envie, d'aller où est le vivant, finalement, puisque Biovallée, c'est la vallée du vivant. Et donc, si c'est vivant pour moi, là, aujourd'hui, de me mobiliser avec d'autres pour essayer de faire avancer la question du logement, la question de la biodiversité, la question des énergies, je vais là où c'est vivant pour moi et j'essaie, avec les autres personnes pour qui c'est vivant, d'essayer de se dire comment on concrétise ça, comment on le rend le plus opérationnel possible, finalement, après ces deux jours. L'idée de partir de cette thématique transition piège à con, c'est d'observer à quel point déjà la question même de la transition, c'est pas une question qui est, enfin c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui admis collectivement. On a une partie de la population de cette vallée qui adhère à l'énergie de la Biovallée, de cette transition écologique et sociale, mais il y en a aussi une partie qui reste aujourd'hui rétive à ces questions et pour qui en fait le fait de mettre cette transition écologique et sociale au cœur du projet du territoire, en fait, c'est quelque part une manière de s'approprier le territoire alors qu'eux-mêmes ne portent pas ce projet. Donc il y a clairement cette ouverture-là, à mon avis, qu'il faut continuer à avoir et cette discussion qu'il faut qu'on ait collectivement pour ne pas faire seulement la Biovallée entre gens convaincus, mais aussi de la faire avec les personnes pour qui cette transition, ce n'est pas du tout une évidence. Et pour moi, le deuxième aspect qui est vraiment essentiel, c'est de se rendre compte que la transition, c'est pas seulement, ça crée pas seulement des effets positifs, mais ça crée aussi des effets pervers. On le voit avec la hausse des prix de l'immobilier, la difficulté pour trouver ne serait-ce que du locatif aujourd'hui dans la vallée. Ça, c'est en partie lié à l'attractivité du territoire. Et cette attractivité, on sait qu'elle est liée au fait que c'est un territoire qui est en avance sur les questions d'écologie, de social, etc. Et donc, il faut aussi qu'on parle de ces sujets-là, des effets un peu de bord, des effets pervers de la transition écologique et sociale. Et comment est-ce qu'on arrive à transformer ces choses-là, à se les approprier et pas juste simplement se dire, tant pis, la vallée va se gentrifier, ça sera un endroit que pour les gens qui auront les moyens de s'offrir cette transition écologique et sociale. Donc pour qu'elle soit réellement sociale, il faut qu'on aille aussi aborder ces sujets-là et qu'on les aborde ensemble.
Et vous êtes peut-être surpris du coup de vous retrouver comme ça dans un cercle, parce que parfois il y a des gens qui parlent et on écoute et voilà. Là, le cercle, c'est pas un hasard en fait, hein. C'est l'avantage du cercle, c'est qu'on se voit tous plus ou moins, avec les différents cercles un peu moins, mais on se voit, il n'y a pas de table, etc. Et on a un principe d'équivalence. C'est-à-dire que qui que vous soyez, expert de la transition, citoyen curieux, citoyen engagé dans votre quotidien ou dans des collectifs, etc., eh bien, il y a une équivalence de parole dans ce qu'on va vivre ensemble là, pendant ces 2 jours.
Voilà. Mais d'abord, un petit mot de ce qui se passe à Oust-sur-Scie pour ce qui concerne donc les questions de solidarité.
En ce qui concerne les solidarités et CCAS, on est principalement axé sur les questions sociales. Sur l'entraide sociale.
Marie-Jo Pierre, deuxième adjointe à la municipalité de Oust, responsable des solidarités et du CCAS.
Il y a probablement des solidarités dans d'autres domaines qui sont très importantes, mais qui ne sont pas de notre ressort ou pour lesquelles on n'a pas d'action possible. Nous, on s'occupe principalement des personnes en difficulté, des personnes en recherche d'emploi, des personnes âgées en difficulté de santé qui ont besoin de constituer des dossiers de demande d'aide, etc. On a une collaboration importante avec la MJC sur la question des familles, soit en abordant des thèmes qui sont propres aux familles, soit on a eu par exemple l'année passée un moment très important sur la question des violences faites aux femmes. Cette année, il y a eu une action dans le cadre de la Semaine Bleue qui démarre début octobre pour la connaissance des problèmes et des soucis des personnes âgées et des structures capables de les accueillir et puis voir l'avenir aussi. Il y a le baby-boom qui arrive à l'âge de rentrer en EHPAD bientôt. Voilà, des choses comme ça. On ne fait rien directement avec la petite enfance parce qu'il y a les écoles, parce qu'il y a la MJC, mais par le biais des familles, il nous arrive de rejoindre des questions d'enfance. D'autres solidarités, déjà à l'intérieur du conseil municipal, on avait axé notre volonté de travailler ensemble dans un cadre de solidarité les uns avec les autres ou les commissions les unes avec les autres. J'arrête là parce que ça va durer tout le matin.
La solidarité semblerait donc être... Évidemment, de votre point de vue et de la place que vous occupez au sein de la mairie donc de Oust-sur-Scie, une des priorités de notre territoire.
Alors, je ne sais pas si l'ensemble de la population est d'accord sur cette expression solidarité. On est quand même dans la solidarité, c'est aussi tout ce qui est relations humaines. relations les uns avec les autres, et c'est pas forcément dans un esprit aide sociale où les plus forts viennent aider les plus petits. La solidarité, c'est être capable d'écouter déjà ce que les autres font ou disent, quelquefois se dire bah ça me plaît pas beaucoup, mais est-ce que je peux comprendre. Enfin voilà, la solidarité c'est vaste, hein. Moi j'aime bien notre devise républicaine, hein. Liberté, égalité, fraternité, qui pour moi est un est le chapeau au-dessus de la solidarité. Voilà.
Je me souviens avoir dit publiquement, écoutez, j'ai toujours essayé de faire mon métier de...
Quel événement sportif.
Oui, je me souviens.
Accompagner un peu dans le séminaire
de cette manière-là.
Et je me rends compte que j'ai jamais voulu faire celui-ci.
Voilà, j'ai vraiment choisi. Et c'est une sorte de jouissance de la vie, mais c'est une sorte de qualité, jouissance de la vie, jouissance de la vie, jouissance de la vie, jouissance de la vie.
Alors, qui êtes-vous ?
Alors, je suis Monica Fiorello, la responsable de l'association Solidarité Habitat.
Une association qui se trouve où ?
Elle est basée à Eure, son siège social, mais elle intervient sur une bonne partie de la Drôme.
Alors, de quoi est chargée cette association ?
Cette association, donc, elle est chargée de faire de la cohabitation intergénérationnelle. Elle fait cohabiter des jeunes chez des seniors. Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, permettre à des jeunes de se loger à moindre coût, créer du lien social, de la solidarité.
Selon vous, quelles sont les priorités dont on devrait se saisir sur notre territoire pour continuer à vivre au mieux ?
Économiser les énergies, vivre ensemble, créer du lien social et entre les générations.
Parce que c'est comme ça qu'on va... non seulement économiser les énergies, mais aussi en regagner peut-être.
Exactement, on va économiser des énergies et en regagner.
Donc nous, on est le laboratoire de la transition. Et du coup, en fait, on propose des animations dans les établissements scolaires pour proposer un avenir désirable aux jeunes. Le dispositif en fait, permet de faire un point sur l'état actuel des modifications climatiques dans la vallée. Et dans un deuxième temps, de proposer un avenir désirable. Et pour ça, donc, de proposer des actions et également de travailler sur les métiers, donc les métiers de la transition écologique, ce qui est en fait clairement notre but, vu qu'on s'appelle le laboratoire de la transition. Et le public est quand même content de pouvoir discuter de ça de manière super libre. On fait un constat sur le présent et on fait une réelle proposition sur la transition et sur un avenir désirable et heureux pour tous.
Qui êtes-vous ?
Oui, alors Alexandre, j'habite Saillant, papa de deux enfants. Sinon, je suis réalisateur de documentaires de cinéma. Voilà, j'ai fait un film sur la pédagogie Montessori qui s'appelle Le Maître et l'Enfant, qui est sorti en 2017. Et actuellement, je travaille sur un autre film qui va nous faire réfléchir, nous faire voir ce que c'est que l'éducation et à la paix. Voilà.
De votre point de vue, quelles sont les priorités dont on devrait se saisir pour faire vivre et continuer à faire vivre ce territoire ?
Alors, moi, je pense à les priorités, c'est la relocalisation ou c'est l'autonomie du territoire en énergie, en alimentation, en gestion des déchets aussi. Je trouve ça très intéressant de se dire que voilà, on ne devrait pas... on ne devrait pas produire trop de déchets, et tout ce qu'on produit comme déchet, il faudrait qu'on sache le recycler ici. Voilà, bien sûr, la question de l'éducation, pour moi, c'est fondamental. C'est comment développer les liens avec le vivant au sein des écoles voilà, du territoire, ça me semble primordial. Et puis la citoyenneté aussi. Voilà, la citoyenneté, comprendre comment fonctionne le territoire, comment fonctionne la mairie et toutes les instances en fait, locales. Ça me semble très, très important voilà, que très vite, on comprenne que on n'est pas seulement un habitant comme ça de lambda et de n'importe quel lieu. Voilà, on habite ici et comment habiter avec une certaine conscience, voilà, du territoire, de comment on y vit, qu'est-ce qu'on peut y faire pour qu'il aille mieux. Voilà.
Et là aujourd'hui, vous vous promenez au marché des initiatives organisé par BioVallée. Bon, c'est sans doute pas par hasard.
Je peux dire que je recherche actuellement effectivement une école, une classe unique dans l'idéal, dans la Drôme, en école primaire, en école publique, qui travaille sur cette question de la paix. Voilà.
Une école publique.
Oui, une école publique. La paix, en fait, ça se traduit d'une certaine façon dans l'école publique et dans l'école en général, comme en fait le vivre ensemble et puis également comme l'éducation civique. Alors, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. En plus de ça, notamment, j'ai parlé là à l'instant avec Catherine Schmider, par exemple, sur la communication non violente, que je trouve c'est une démarche extrêmement intéressante à considérer pour apaiser et réguler les conflits qu'il peut y avoir très, très régulièrement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le domaine de la paix, parce que la paix, aujourd'hui... contrairement à ce qui était plutôt dans l'esprit des éducateurs, des pédagogues après la Première Guerre mondiale, là, qui travaillaient sur l'éducation nouvelle, qui ont fondé quelque part le projet d'éducation nouvelle, qui était sur la problématique d'éviter de transformer la société et d'éviter finalement de futures guerres. Voilà, la paix s'était considérée comme l'absence de guerre. Et aujourd'hui, la paix, c'est bien plus que ça, c'est la paix avec soi, la paix avec les autres et la paix avec la nature. Et c'est sur cette triade-là, moi, que j'ai envie de travailler et qui me semble essentiel de travailler aujourd'hui au sein de l'école pour que l'humanité progresse. Il faut arriver, à mon sens, à avoir une certaine paix en soi pour transformer le monde. Hein.
Tournez la page.
Vous écoutez Il est une vallée sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Il s'agirait peut-être, quand on parle de solidarité, que chacun, chacune puisse trouver une place ou sa place sur le territoire.
Ça, c'est le rêve idéal, hein, c'est formidable. Je pense que les gens sont déjà bien à leur place, des groupes aussi, hein, des collectifs, enfin tout ça. Il y a toujours eu des gens mal, soit mal installés, soit mal accueillis, soit mal dans leur tête, enfin, etc. Et puis, on aura toujours ce problème, ça traîne, ça peut s'améliorer un peu, mais ça va, ça vient. C'est l'histoire des humains, de ceux qui ont tout et de ceux qui ont moins ou de ceux qui ont rien, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il y a du travail à faire, effectivement.
Il y a ici, sur ce territoire, on le sait, de nombreux habitants qui ne sont pas là toute l'année et qui profitent de maisons secondaires et qui ne font pas communauté avec celles et ceux qui vivent là pour le coup quotidiennement et qui d'ailleurs même ont des difficultés pour se loger et pour trouver leur place.
Que puis-je dire par rapport à ça ? C'est vrai que c'est triste de voir qu'effectivement, il y a une partie du logement qui appartient, qui est réquisitionnée quelque part par des gens qui vivent très peu de temps. Moi, je crois que l'urgence climatique, l'urgence peut-être sociale, l'urgence économique, doit nous obliger à faire des actions radicales. Voilà. Donc on peut en imaginer au niveau de l'habitat, c'est-à-dire qu'effectivement la résidence secondaire, elle peut être plus taxée ou alors elle peut même être on pourrait même contraindre des gens à partager leur habitat, je ne sais pas, c'est très radical, ça peut être difficile, mais en tout cas il faut trouver des actions pour que les gens puissent se loger et se loger dignement. Voilà, parce qu'avec la hausse du prix de l'énergie, il n'y a plus que l'habitat lui-même, hein, il y a aussi comment on y vit dans cet habitat. Et ça, c'est un sujet super important. Donc, c'est vrai que la question des résidences secondaires, notamment pour l'habitat, mais aussi pour d'autres choses aussi, hein, parce que ça, il peut y avoir aussi un intérêt. On se dit que il y a des gens qui sont résidents secondaires, ils arrivent aussi pour passer leurs vacances, qui vont donc participer au développement économique des activités touristiques, etc. Donc il peut y avoir des bénéfices économiques, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut voir ça de manière beaucoup plus globale et de voir si vraiment ça contribue de manière globale au développement ou même simplement au maintien de la vie dans toute sa richesse dans la Biovallée. Donc je pense que c'est un sujet effectivement à questionner, surtout si c'est des gens, je vois saillant, il y a un vrai problème de disponibilité locative. Hein, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça ? Eh bien, il faut s'emparer du sujet et puis peut-être prendre des décisions fortes. Voilà. Il faut qu'on puisse accueillir tous ces gens pleins de bonne volonté. Il faut qu'on puisse les accueillir. Et c'est vrai que vaut mieux accueillir des gens qui vont rester là dans la durée plutôt que des gens qui sont juste là pour profiter d'un environnement. Alors après, c'est louable, hein, mais effectivement, ça pose la question de est-ce qu'il faut vendre des maisons à des gens qui vont y passer très peu de temps. C'est ça. Je comprends qu'il y a une priorité à donner à cette population qui veut s'installer ici, voilà, durablement.
Excusez-moi madame, tout à l'heure quand je vous ai vu là il y a quelques heures, c'était juste après le repas du midi, vous m'avez dit que vous étiez un papillon là un peu débarqué à ces journées organisées par Biovallée et que vous étiez peut-être là à cet instant un peu peut-être dubitative ou peut-être même peu optimiste et vous avez malgré tout participé donc à cet après-midi de discussion et j'aimerais savoir là maintenant que la journée se termine, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez vécu finalement durant l'après-midi ?
Alors c'est très simple. Je pense qu'on a tous le droit de changer. Et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai vu l'affiche La Révolution intérieure et je me suis dit ça me parle parce que je pratique la pleine conscience et que cette révolution intérieure, je sais à peu près de quoi ça parle. Donc je me suis inscrite et je me suis assise sur une chaise et j'ai parlé. J'ai rencontré des gens très intéressants et donc je ressors très contente parce que en fait je suis passée à l'action. Je ne suis pas restée à me dire dubitative comme vous me dites et je pensais que c'était quand même mieux d'être dans l'action que de rester dans mes pensées.
La révolution intérieure et la révolution extérieure alors.
C'est la même chose. Ça commence par l'intérieur, peut-être. C'est pas sûr. Pour certains, ils n'arrivent pas à entendre que ça commence d'abord par soi. Si on ne fait pas ce travail intérieur, si on ne fait pas un travail sur soi, si on ne rentre pas dans une forme d'intimité avec soi-même, d'amitié avec soi-même, je ne crois pas qu'on puisse agir efficacement à l'extérieur. Donc, voilà. Ça, mais ce n'est pas sûr que ça commence par là. Hein, pour moi, oui. Voilà.
Mais je ferai l'hypothèse avec vous que finalement, pour être dans cette révolution intérieure, il s'agit donc d'être en bonne santé, de pouvoir donc d'être bien logé, de bien se nourrir, et que malheureusement, ben, tout le monde n'a pas accès à un certain confort, et aussi sur notre territoire. Est-ce que ça, c'est voilà, et ça revient du coup à notre, à ce qui a été dit aussi sur tout ce temps de forum, c'est-à-dire que ben, il s'agit de développer encore plus de solidarité et d'intégration.
Oui, alors, je pense que la conscience, c'est quelque chose qui appartient à tous les êtres humains. Il n'y a pas de hiérarchie, et je ne crois pas qu'il faille mettre un... Oui. Il ne faut pas hiérarchiser la conscience. Tout le monde a une conscience. Et il appartient à chacun de la développer ou pas. Je ne pense pas que ce soit une question de classe sociale, de richesse ou de pauvreté. Je ne pense pas. Après, c'est peut-être plus facile quand on a tout, effectivement. Moi, je ne suis pas en très bonne santé, je ne suis pas toujours très bien, mais voilà, je pense que c'est mon travail et que tout être humain peut le faire.
Du coup, ça revient à la question des responsabilités qu'on a, on aurait tous et toutes, finalement.
Tout à fait, je pense. On est responsable avant tout de soi-même. Et puis on est responsable de tout le reste du monde, de tout le vivant. Donc oui, si on a conscience de ça, ben on travaille. On travaille sur cette conscience pour la développer et en faire quelque chose de chouette.
C'est hyper exigeant d'être dans un conseil d'administration où on est 24, où il y a des élus, moi j'ai jamais été élu, où il y a des entreprises. Bon, maintenant j'ai créé des entreprises, mais à l'époque j'avais jamais créé d'entreprise. Où il y a des associations, ça je connais très très bien, et puis des citoyens. Et en fait, c'est exigeant, et c'est fabuleux en fait. C'est juste incroyable de pouvoir se dire que, ben ouais, en fait, c'est pas facile, ça demande de discuter. On parle de communication et de comment s'adresser aux gens, mais quand on a une entreprise, une association, un élu ou un habitant, en fait, on n'a pas du tout la même manière de communiquer, on n'a pas les mêmes habitudes de communiquer, on s'adresse rarement aux mêmes gens. Et je sais que ces deux jours, on a justement beaucoup travaillé avec alors Roden, Tao et moi. Et la rencontre avec Roden, je ne sais pas si t'es là, Roden. Est-ce qu'elle est là ou pas? Bon, vous lui raconterez, elle nous attend en balle, elle a trop envie de danser.
Alors vous êtes qui?
Ben, je suis habitant de Oust et je suis impliqué dans ce que Oust... et toute la vallée peut devenir dans le futur et interpellée par le manque d'eau, le manque d'énergie et tout ce genre de choses.
Quand vous parlez du manque d'énergie, vous pensez à quoi ?
Ben, aujourd'hui, on voit que la crise d'Ukraine, la guerre en Ukraine, pour parler plus précisément, a généré une crise énergétique. Mais en fait, elle ne fait qu'anticiper ce qui va arriver plus tard. Donc, ça serait utile d'utiliser ça comme une opportunité pour s'engager vers d'autres modes et d'autres moyens de consommer l'énergie. Donc, c'est la première moyen, c'est de consommer moins d'énergie. Donc, comment on fait pour aider les gens à consommer moins d'énergie? Et la deuxième, comment on peut rendre l'énergie propre, décarboné et moins cher, ou moins cher, peut-être pas plus cher qu'avant puisque il va y avoir une inflation, mais moins cher que ce qu'on connaît actuellement.
Et en vous écoutant, j'allais ajouter aussi soutenir ou renforcer l'énergie de ces hommes et de ces femmes, enfin de ces humains qui tentent de vivre sur ce territoire.
Alors, je suis convaincu qu'au-delà de la seule activité des collectivités territoriales, etc., il serait urgent de réimpliquer plus les citoyens et de capitaliser sur leurs énergies et d'arrêter de cliver, puisque c'est des sujets, si on les prend simplement, sont assez clivants, hein, avec y a les écolos versus les gens qui ont moins de moyens. Et je pense que remobiliser et repartir des citoyens pour essayer de construire quelque chose de durable et de bon pour les individus est crucial.
Donc bon pour les individus, bon pour tous et toutes, pour du coup évidemment plus d'égalité, plus de solidarité.
Ah mais le aujourd'hui, les inégalités sont en augmentation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les inégalités ne sont pas identiques sur tout le territoire de la vallée de la Drôme. Il y a plus d'inégalités, je pense, dans le Diois que dans le bas de la vallée. Et donc, il ne pourra pas y avoir d'évolution sans prendre en compte le social. C'est-à-dire que si on veut arrêter le clivage, il faut lier social et environnemental. Le problème est clair. La question, c'est comment on avance vite, puisque maintenant, on n'a plus le temps. Et donc là, le comment, c'est la chose sur laquelle il faut réfléchir et agir. Il faut arrêter de poser les problématiques, parce que les problématiques sont connues. Manque d'autosuffisance alimentaire sur la vallée, problème d'eau, problème d'énergie. C'est comment on fait pour que demain, on fasse bouger les choses significativement dans la bonne direction.
Est-ce que vous avez un peu une idée de ce comment, quand même, tout à fait même en secret?
Ah non. Non, j'ai pas de secret. Ce que je pense, c'est que on est dans une situation où les politiques, généralement, sont trop prudents parce qu'ils sont, ils ont peur de voilà. Et notre système politique est assez clivant en plus, lié au mode électoral où c'est à deux tours, majorité, etc. On est obligé de cliver au premier tour pour être présent au deuxième tour en essayant de rassembler à ce moment-là. Donc, si on veut sortir de cette problématique-là, il faut repartir des citoyens. Je pense que c'est en impliquant plus les citoyens, il y a beaucoup d'énergie au niveau citoyenne, et qu'on peut arriver à bouger plus vite. Par exemple, si on regarde sur les réseaux sociaux, les gens qui sont contre s'expriment plus que les gens qui sont pour. Donc, il faut, en mobilisant, et nos élus entendent les gens qui sont contre et pas toujours les gens qui sont pour. En repartant plus du citoyen, on devrait être capable de voir une vision plus claire de l'envie générale plutôt que l'opposition. Et l'énergie, elle est dans l'envie, elle n'est pas dans le contre. Et c'est ça qu'il faut libérer.
Voilà. Cela dit, ce week-end est une invitation donnée à tous et toutes pour venir ici exprimer un certain nombre d'envies, de sentiments, de points de vue, pourquoi pas, afin de soutenir le désir de toutes celles et ceux qui veulent vivre sur ce territoire. Cependant, on comprend bien que on est encore toujours un peu dans un certain entre-soi. Alors et quel serait, de votre point de vue, comme ça, très spontanément, s'il y avait quelques pistes qui pourraient orienter notre manière d'aller vers les autres pour impliquer encore un peu plus tout le monde?
Messieurs, dames, bonjour, bon appétit. Merci d'être venus. Nous, on s'appelle les Ramen.
Suite au prochain épisode. merci à vous tous et toutes qui nous avez confié vos voix. Merci à vous ici pour la musique. Merci à vous là-bas pour votre attention. À bientôt.